assister à un événement créatif dédié aux arts de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de l'UQAM? UQAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale d'UQAM en spectacle à la 5e salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Boussaïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
Beats to Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to Eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah!
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour à tous nos auditeurs, vous êtes sur les ondes de choc. Bonjour à tous nos auditeurs, vous êtes sur les ondes de choc. Vous avez peut-être entendu dire que ces temps-ci, c'est le chaos à l'UQAM. Vous pensez que l'apocalypse nucléaire s'en vient, comme l'annonce Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen? Eh bien, tout ça, c'est la faute aux médias. Notre émission qui se penche sur le traitement médiatique des enjeux politiques et d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse plus en détail sur la situation de l'UQAM. Mais avant tout, je me présente, Émilien Roscanou à l'animation. Autour de la table, nous avons Véronique Forêt, Francis Suot ainsi qu'Alex Bachalani. Et à l'animation, nous avons Camila Rodriguez-Ca. Bonjour à tous.
Bonjour. Salut.
Bonjour.
Donc, on va commencer tout de suite avec Véronique. Donc, afin qu'on comprenne bien la situation, tu vas nous faire une courte mise en contexte des différentes crises qui ont marqué l'UQAM dans la dernière année.
Oui. Donc, sans trop tarder, je vais vous dresser le portrait des soi-disant crises qui ont secoué l'UQAM pendant la dernière année puis qui ont beaucoup fait jaser dans les médias. Donc, tout commence à l'hiver 2015. Plusieurs associations étudiantes décident d'entrer en grève pour protester contre l'austérité et les hydrocarbures. C'est le premier événement qui donne le ton au bras de fer qui va s'amorcer entre les étudiants et la direction. Au mois de mars 2015, l'UQAM envoie des avis de convocation devant le conseil exécutif de l'université à 9 étudiants. Ça menaçait certains d'une expulsion complète et définitive. Plusieurs ont vu ces avis-là comme de la provocation de la part de l'administration, puisque les faits reprochés aux différents étudiants remontaient pour certains d'entre eux à 2 ans auparavant. Donc, pourquoi est-ce qu'ils recevaient cet avis-là maintenant? Des sanctions concernant les activités politiques au sein de l'établissement étaient une première dans l'histoire de l'UQAM. Par la suite, un groupe de manifestants a saccagé l'intérieur du pavillon GIA de Sèvres pendant une occupation le soir du 8 avril. L'intervention policière a été nécessaire pour faire sortir les manifestants.
Si je me souviens bien, par contre, cette action-là était à la base pacifique, non?
Effectivement. En fait, elle a eu lieu en réaction à l'arrestation de 22 étudiants plus tôt dans la journée. Un groupe d'étudiants tentait de lever des cours plus tôt dans la journée. La situation aurait prétendument dégénéré avec les agents de sécurité de l'UQAM, puis l'UQAM aurait fait appel aux policiers.
Cette histoire-là avait beaucoup fait jaser dans les médias et avait fait une bien mauvaise publicité pour l'UQAM.
En effet, puis à l'automne 2015, l'UQAM a enregistré une baisse de 5,3% des demandes d'admission. C'est le seul établissement universitaire qui a remarqué un tel phénomène. Plusieurs ont imputé ça à la grève du printemps, dont le recteur de l'université Robert Proulx. Ce dernier a expliqué que ces baisses de demandes d'admission s'inscrivaient dans un contexte d'austérité puis représentaient 5 millions en perte de revenus pour l'année 2015-2016. Cependant, il est important de dire que ce chiffre-là a été contesté. En fait, le syndicat des employés de l'UQAM, le CETU, a expliqué que le nombre de demandes d'admission n'influence en rien le nombre d'inscriptions, donc l'analyse de Robert Proulx serait un petit peu biaisée.
Cette année, on sait que les étudiants n'ont pas déclenché de grève majeure. Qu'est-ce qui contribue donc à alimenter cette soi-disant crise à l'UQAM?
Plusieurs facteurs font en sorte que la crise se poursuit, mais cette fois-ci, ça n'implique pas directement les étudiants de l'UQAM, mais plutôt leurs employés. En effet, la CETU a déclenché une grève à la fin de la session dernière, puisque les négociations pour leur contrat de travail n'aboutissaient pas. Il est important de rappeler que la CETU se trouve sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2014.
Wow.
Cette semaine, le syndicat des professeurs de l'UQAM, le SPUC, a été en grève mardi afin de pouvoir se réunir en assemblée et discuter de leur situation. De leur côté aussi, les négociations pour leur contrat de travail ne semblent pas avancer à un rythme convenable, puis des moyens de pression sont envisagés afin de faire bouger les choses. La convention collective est échue depuis 3 ans, donc ces deux dossiers-là sont toujours en développement.
Et puis, l'UQAM semble avoir beaucoup de difficultés dans la négociation avec ses employés. Peux-tu nous parler un peu de cette rumeur de séparation de l'École des sciences de la gestion, la fameuse ESG?
Oui, en fait, dans un communiqué diffusé le 18 février dernier, le doyen de la faculté, Stéphane Palage, affirme que les négociations avec l'UQAM pour doter la faculté de plus d'autonomie sont un échec. Il envisage donc une consultation auprès de ses membres pour voir si une séparation de l'UQAM serait envisageable. Elle devrait se tenir au mois d'avril prochain. Par contre, on a su aujourd'hui que Robert Proulx a décidé de nommer 2 experts afin d'étudier les différents modèles possibles de décentralisation. Donc, on a une ouverture de ce côté-là de la part de l'administration.
Oui, puis en plus, dans le rapport de l'Ombudsman de l'UQAM déposé le 23 février dernier, on a même appris qu'il y avait eu une hausse des plaintes pour l'année 2014-2015.
En effet, Muriel Binette a remarqué une hausse des plaintes concernant les cycles supérieurs en particulier. Alexandre va vous en parler un petit peu plus en profondeur dans sa chronique.
Donc, on peut donc dire que l'UQAM a beaucoup de dossiers chauds à gérer ces temps-ci.
Effectivement. Donc, pour résumer, l'année dernière a été marquée par les grèves étudiantes, les avis de convocation, puis le saccage d'un pavillon. Cette année, c'est des conflits avec ses employés qui ont occupé le temps de l'administration. Du côté du CETU comme du SPUC, l'UQAM ne semble pas vouloir faire avancer les pourparlers et arriver à une entente. À ça, on doit ajouter la hausse des plaintes à l'Ombudsman, qui est une situation bien préoccupante pour un établissement universitaire. Et en plus de ça, on ajoute le climat d'austérité. Donc, à la lumière de ces événements-là, on peut se questionner à savoir si oui ou non l'UQAM est en grève.
Oui, c'est pas très clair, non, comme situation. Donc maintenant, on va passer du côté d'Alex. Merci beaucoup, Véronique.
Avec plaisir.
Donc, Alex, toutes ces crises ont inévitablement des conséquences au sein de l'UQAM, mais surtout aussi auprès de son image.
Tu as tout à fait raison, Emilien. En effet, il y a beaucoup de répercussions à l'UQAM, mais c'est aussi l'image de l'université qui prend un coup. C'est peut-être la faute aux médias. On verra ça plus tard avec Francis. Bref, on peut voir beaucoup de mobilisations revendicatrices d'étudiants et étudiantes et employés dans l'établissement. En effet, la session dernière, nous avons assisté à des lignes de piquetage dur devant toutes les portes de l'université. En début de ce semestre, il y a eu une grève étudiante lors de la journée des portes ouvertes et même une manifestation devant la maison du recteur Robert Proulx, sa maison personnelle. Aussi, la CETU s'est regroupée dans le hall principal du pavillon Judith Jasmin pour encore une fois contester l'absence d'une convention collective. Comme abordé plus tôt avec Véronique, le nombre de plaintes auprès de l'Ombudsman de l'UQAM est monté en flèche. En effet, les étudiants au cycle supérieur sont de moins en moins encadrés, il y a un manque de ressources, les révisions de notes se font difficiles auprès des professeurs. Donc les étudiants sont fâchés et se plaint de plus en plus auprès de l'administration.
Et est-ce que tu peux aborder un peu le conflit entre l'UQAM et l'ESG plus en profondeur et en décrire les conséquences?
Ben oui. On sait qu'il y a toujours eu des flamèches entre l'école des sciences de gestion et le reste de l'UQAM. Cependant, cette fois-ci, le désir d'indépendance de l'ESG se fait sérieusement sentir. Cette dernière ne partage pas les mêmes valeurs un peu plus de gauche que l'on retrouve chez la majorité des départements UQAMiens. Ce conflit s'illustre entre autres par une baisse des inscriptions à l'ESG de 10,8%. Le doyen de l'ESG, Stéphane Palage, réclame une décentralisation financière de son école due à plusieurs coupures monétaires. Or, si cela arrive, il y aura plusieurs programmes à l'UQAM, des plus petits programmes, qui disparaîtront, car ils sont indirectement supportés financièrement par l'ESG à cause du système de péréquation.
Donc, un système qui est présent à l'UQAM, on comprend pourquoi. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il en est de l'image comme telle de l'UQAM?
C'est quand même difficile de faire ressortir des faits en matière de conséquences directes sur l'image de l'université, mais on entend souvent qu'il y a une baisse de demande d'admission, ou même que certains employeurs n'ont pas vraiment envie d'engager des... si je veux mettre en guillemets, des étudiants rebelles qui n'ont pas passé le réel parcours universitaire que laisse sous-entendre leur diplôme. Bref, c'est quand même un peu triste tout ça, surtout que l'UQAM se retrouve dans les médias que pour les mauvaises raisons, un peu comme Donald Trump.
Ben, merci beaucoup, Alex, pour ton analyse.
Pas de problème.
Donc maintenant, on va se quitter en chanson. On va écouter Warts de Inns. Donc, c'était Warts de Inns. Maintenant que Véronique nous a parlé des événements qui se sont passés à l'UQAM dans la dernière année, on passe à Francis Huot, qui, lui, s'est intéressé cette semaine à la couverture médiatique des soi-disantes crises à l'UQAM. Salut, Francis.
Salut, Millier.
Donc, peux-tu nous expliquer un peu de quoi il en retourne?
Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont poussé les médias à tenter de créer des crises à l'UQAM. C'est sûr qu'il y a des liens qui existent entre les événements que vient de mentionner ma collègue Véronique, comme l'austérité, les coupures budgétaires, la rigidité dont l'administration de l'université a fait preuve. Mais ces événements-là sont pas nécessairement liés de façon claire les uns aux autres. Non seulement ils sont pas liés, mais d'utiliser le mot « crise » peut paraître un peu exagéré, selon moi, pour décrire les différents événements qui ont été couverts par les médias.
Donc, est-ce que tu irais jusqu'à dire que les médias ont créé de toutes pièces la crise qui sévit à l'UQAM?
Sans dire que les médias ont créé la crise, parce que ces événements-là se sont réellement passés, je pense que les médias ont certainement cherché à amplifier la situation. En faisant une petite recherche Google rapide avec les mots-clés « crise » et « UQAM », on tombe pour le dernier mois seulement sur une douzaine de nouvelles de grands médias comme La Presse, Le Devoir, Radio-Canada, puis les médias de Québécois, qui font référence à une quelconque crise à l'UQAM.
Wow.
Donc, c'est pas une situation qui est exclusive aux médias, que certains accusent peut-être d'être de moins bonne qualité, puis c'est pas juste non plus les radios poubelles de Québec qui réfèrent à la crise, mais bien l'ensemble des médias de masse au Québec.
Oui, c'est assez généralisé, mais concrètement, est-ce que ça se traduit dans les médias quand une série d'événements comme celle-là est amplifiée de la sorte, est-ce que c'est courant, ce genre d'événements-là?
Oui, en fait, je lisais un article sur la couverture médiatique de la crise des accommodements raisonnables qui a eu lieu au Québec il y a quelques années, qui a été publié dans le Canadian Journal of Communication en 2010. À une échelle beaucoup plus grande, évidemment, les médias ont accordé une couverture médiatique très intensive à une série de cas d'accommodement raisonnable sur une période de 12 mois. Les médias ont donc réussi à mettre à l'ordre du jour une réalité qui était émergente à l'époque, la gestion de l'immigration puis de la diversité culturelle au Québec. Ce phénomène-là s'appelle l'amplification médiatique, ou « media hype » en anglais. Grosso modo, on grossit la nouvelle, on la rend spectaculaire, puis on la normalise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction de valeur entre les nouvelles. Donc, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, la crise à l'UQAM peut avoir la même importance dans les médias qu'un bombardement dans un quelconque pays moyen-oriental. C'est les médias, en amplifiant une nouvelle comme celle-là, qui fixent l'ordre du jour social et politique, ce qu'on appelle l'agenda setting.
Je remarque aussi que les médias traitent ces nouvelles-là de façon plutôt manichéenne. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout, Émilien. En fait, par définition, le manichéisme consiste en une attitude qui vise à ramener une situation à une simple opposition entre le bien et le mal. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, les médias cherchent visiblement à opposer l'UQAM comme institution universitaire qui est caractérisée notamment par son militantisme. On l'a souvent décrit comme l'université de gauche au Québec. Aux autres universités qui ont une clientèle, puis là je mets le mot « clientèle » entre guillemets, évidemment, plus modérée. Moins militante, une sorte de majorité silencieuse des étudiants et étudiantes universitaires. C'est pour ça que je pense que les crises qui sévissent à l'UQAM bénéficient d'une couverture médiatique aussi importante. À mon avis, les médias cherchent juste à créer une opposition entre l'UQAM et les autres universités.
Oui, l'UQAM qui est aussi connu là, pour étant l'université qui est le bébé de la Révolution tranquille.
Oui, exact.
Mais pourquoi les médias décident d'amplifier une nouvelle comme celle-là? À qui ça profite?
Oui, ça c'est la question à 100 000 $, Émilien. Le linguiste et philosophe Noam Chomsky dirait sûrement que le dessin même de la couverture médiatique des crises à l'UQAM est politique. Qu'il y a des élites politiques et économiques qui chercheraient à fabriquer le consentement de la population en dépeignant négativement le côté gauchiste de l'UQAM. Le but politique de l'amplification médiatique de la situation de l'UQAM serait donc une façon pour l'élite politique et économique de défendre l'idéologie néolibérale dominante. Mais en plus, ça peut permettre à l'administration de l'UQAM de justifier les moyens qu'elle a pris pour encadrer puis même réprimer les activités militantes qui se déroulent à l'UQAM depuis un an, mais c'est depuis même plusieurs années. Mais qu'on soit en accord ou non avec Chomsky, je pense qu'on peut quand même s'entendre sur le fait d'amplifier ou de rendre sensationnel ce qui s'est passé à l'UQAM dans la dernière année. Puis même ce qui s'est passé depuis 2012, c'est payant pour les médias, ça fait augmenter leur auditoire, puis ça fait vendre des copies.
Oui, des tonnes de copies, comme dirait l'autre. Donc, on vous revient tout de suite avec notre section débat. Donc, pour notre section débat, je vous le rappelle, vous êtes sur les ondes de choc à la Photomédia. Donc, on aborde le sujet controversé de l'UQAM. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une crise à l'UQAM? Est-ce que des situations semblables se sont déroulées dans les autres universités? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, moi, je pense que si on prend l'exemple, par exemple, de la grève qu'il y a eu à l'UQAM au printemps 2015, au printemps dernier, il y a eu des grèves similaires dans les universités un peu partout au Québec, puis peut-être à des échelles moindres quand même, mais par exemple à l'Université de Montréal, il y a certaines associations étudiantes qui ont été pendant plusieurs semaines en grève, puis le conflit n'a pas semblé dégénérer autant qu'il l'a fait à l'UQAM. Donc pour moi, c'est un peu inexplicable que la crise à l'UQAM soit aussi intense, mais qu'à l'Université de Montréal, par exemple, tout s'est déroulé comme dans une espèce de calme relatif.
Véronique?
Ben moi, je dirais que... Dans les autres universités, ça s'est pas passé comme à l'UQAM. Les élèves, il y avait moins de confrontations entre les élèves puis l'administration, fait que c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte qu'à l'UQAM, ça a pu prendre plus d'ampleur que dans les autres universités.
Oui.
Selon moi, Véronique et Francis ont raison. Ce que j'ajouterais un point à ce qu'ils ont dit, l'affaire qui différencie l'UQAM et les autres universités, c'est que les autres universités, il y a une grève une fois de temps en temps, puis l'amplitude de cette grève est un peu moins forte qu'ici. À l'UQAM, on voit vraiment la fréquence des grèves qui se donnent pas mal à chaque session. Des fois, c'est deux par session. Tandis que dans d'autres écoles, comme l'Université de Montréal, ça arrivait quoi, une fois dans la dernière année, si je me trompe pas?
Oui, c'est sûr que la fréquence des manifestations est plus prononcé là, à l'UQAM, mais dans les autres universités, ça peut être différent. Mais qu'est-ce que tu voulais rajouter, Francis?
Bien, c'est comme si l'administration de l'UQAM anticipait un mouvement qui serait plus gros ou plus important que, dans, par exemple, l'administration de l'Université de Montréal le ferait. On a peur de ce qui pourrait se produire, donc on prend des mesures qui sont peut-être trop draconiennes puis qui font réagir les étudiants, puis là, ça crée une espèce d'escalade de la tension dans l'université.
Oui, puis c'est ça qui entraîne un peu cette espèce d'atmosphère-là un peu chaotique, parce que tout le monde essaie de renchérir par-dessus l'autre avec des actions toujours plus importantes, toujours plus draconiennes, comme tu le disais. Ce sont pas seulement les médias qui parlent d'une crise. Il y a certaines associations étudiantes, les professeurs, des groupes militants qui le font. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas?
Moi, ça me surprend un peu de voir que... Que les médias parlent d'une crise, ça me surprend pas du tout, mais que de voir que, par exemple, des associations étudiantes ou même le syndicat des professeurs de l'UQAM, le SPUC, parlent d'une crise dans les médias, je trouve ça un peu surprenant, mais en même temps, je pense que la raison qui explique ça, c'est qu'ils veulent mettre l'emphase sur les problèmes qui existent à l'UQAM, puis eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre de la pression sur l'administration pour que ces problèmes-là soient réglés. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur le mot « crise ».
C'est aussi pour investir l'espace médiatique.
Oui, exactement, c'est ça. Mais je serais curieux quand même d'avoir une discussion... en tête-à-tête avec un enseignant pour voir c'est quoi sa vraie perception de la couverture médiatique des crises qu'il y a eu à l'UQAM.
Mais tu sais, on peut peut-être aussi parler que ça fait des années qu'ils n'ont plus de convention collective quand on parle du SPUC puis du CETU. Donc, eux, ils peuvent le percevoir comme une crise en tant que telle. Là. Quand ça fait 3 puis 2 ans que tu n'as plus de convention collective, c'est critique. Là. On est dans une situation qui s'en vient urgente.
Oui, puis la responsabilité de ces crises-là, est-ce que vous pensez qu'elle est imputable plutôt à un camp qu'à un autre? L'administration, est-ce qu'elle est trop rigide ou est-ce que c'est la communauté universitaire qui serait trop revendicatrice?
Pour moi, c'est les deux. Oui, en effet, l'administration est un peu trop rigide. Ils aident pas vraiment à la table de négociation. Mais cependant, la communauté universitaire est quand même très revendicatrice. Juste pour mettre les choses en perspective, j'ai des amis qui sont à Concordia, à McGill, à l'UDM, puis pour eux, ils savent pas c'est quoi une entente d'évaluation. C'est vraiment juste, ben, ça, écoute, de ce que je sais, c'est juste l'UQAM qui a ça. Déjà, ça dit grand chose.
Oui, ben, c'est la culture de collégialité qui diffère un peu, là, avec les autres universités. C'est à la base de l'UQAM.
Ouais. Donc, c'est ça, mon point, c'est que oui, la communauté universitaire est trop revendicatrice, mais l'administration aussi, reçoit un blâme.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Francis?
Je suis pas tout à fait d'accord avec Alex, mais tu sais, pour revenir peut-être à l'exemple du printemps dernier, les revendications étaient les mêmes dans les, tu sais, si on compare avec l'Université de Montréal, là, parce que c'est sûr que peut-être que les étudiants qui la fréquentent, ils ont un profil sociodémographique peut-être différent, mais ils sont dans la même ville, les deux universités, fait que je pense qu'on peut les comparer. Puis la situation s'est développée de façon totalement différente dans les deux universités. Puis avec des revendications qui étaient similaires dans les deux universités des étudiants. Fait que là, on se demande, est-ce que c'est l'administration qui a fait pourrir le conflit? Moi, personnellement, je pense que oui. Mais c'est certain que... Puis l'université, l'UQAM a un passé assez militant. Donc, c'est peut-être l'œuf ou la poule qui est venu avant. Ça, c'est sûrement la question qui est la plus difficile à répondre. Mais je pense que l'intransigeance de l'administration a fait en sorte que ces conflits-là ont pourri.
Oui, puis le conflit a vraiment escaladé, là. Il y a eu vraiment une escalade. Tout le monde voulait, tirer son épingle du jeu. Je vais vous relancer en se demandant pourquoi ces crises-là, comme celles qui se produisent à l'UQAM, ont pas lieu dans d'autres universités, même montréalaises. Pourquoi vous pensez... On parlait de la collégialité tout à l'heure. C'est sûr que, la culture universitaire est différente. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas d'autres raisons pour ça?
Ben moi, je pense que fondamentalement, c'est que l'UQAM a été bâti sur des fondations d'inclure des domaines d'études qui étaient non traditionnels. Fait que ça laisse place aux beaux-arts, à la musique, philosophie, ces trucs-là. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des domaines d'études qui sont peut-être plus axés vers la gauche que la droite. Donc, on retrouve une historique plus militante. L'UQAM est aussi en plein centre-ville, ce qui fait que c'est dynamique. Il y a beaucoup d'actions. C'est des gens qui veulent être plongés dans l'action. Fait que peut-être que ça peut contribuer aussi à ce que l'UQAM se démarque un peu des autres universités, là, du point de vue des grèves, des manifestations, là, puis de l'engagement social de ses étudiants.
Oui, Alex?
J'aimerais juste me dire que j'approuve à 100% les commentaires de Véro. Elle a vraiment raison, surtout par rapport au fait que les autres universités, exemple, ceux qui sont anglophones, sont plus axés sur le côté sciences naturelles, mathématiques, tandis que l'UQAM, c'est beaucoup plus sur les sciences sociales, que justement, les élèves sont un peu plus révolutionnaires, ils aiment se défendre vraiment leur opinion.
Oui, ils sont plus conscientisés, puis ça fait un peu plus partie de leur identité.
Puis il y a aussi le fait que je pense que l'UQAM a une réputation, puis ça peut peut-être attirer des jeunes étudiants qui sont plus militants ou revendicateurs, justement, qui disent que de fréquenter l'UQAM, ça pourrait être c'est quelque chose d'intéressant pour leur cheminement. Puis je pense que ça fait en sorte que ces étudiants-là ont le goût de fréquenter l'UQAM, puis peut-être que ça peut faire en sorte que les étudiants sont plus revendicateurs.
Bien, sur ces belles paroles, on va se laisser en chanson. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe. Camila Rodriguez-Ca, toujours à la technique. On avait Véronique Forêt, Francis Huot, ainsi que Alex Bachalani autour de la table. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Pas de problème.
Encore une fois, c'était Émilien Roscanou à l'animation, excusez-moi. Et puis, on se laisse jusqu'à la semaine prochaine avec la chanson Numbers de Daughter dans l'album Not to Disappear.
Vous souhaitez assister à un événement créatif dédié aux arts de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de l'UQAM? UQAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale d'UQAM en spectacle à la 5e salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Boussaïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
Beach to Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du